Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Fahrenheit 451, l'émission des livres qu'ils n'ont pas encore brûlés. Alors je vais laisser Olivier présenter le programme de ce soir.
Eh bien bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. Au programme ce soir, théâtre brechtien et puis un essai document sur une révolution politique et culturelle.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir Michel.
Alors ce soir du théâtre et un essai sur le punk féministe aux États-Unis.
C'est ça, donc c'est un livre qui s'appelle Riot Girls, sous-titré Chronique d'une révolution punk féministe, donc qui a été écrit par une chercheuse qui s'appelle Manon Labrie et qui s'est donc intéressée au mouvement punk féministe au tout début des années 90 aux États-Unis. Et toi, donc tu nous parles de théâtre ce soir?
C'est ça, alors on change d'ambiance, on part dans le Caucase avec une pièce de théâtre de Bertolt Brecht qu'il a écrit en 1945 et publié en 49, si j'ai bonne mémoire. Donc ça s'appelle Le Cercle de Craie Caucasien et c'est une pièce de théâtre, alors déjà c'est typiquement du théâtre brechtien, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est du théâtre épique. Avec une forme très particulière puisqu'il y a toujours ce rappel de l'histoire avec un cœur qui est présent et le principe de distanciation, donc ça c'est le principe de Brecht. Pour faire simple, le principe de distanciation, c'est un principe scénique de Brecht qui force le spectateur à comment dire à se mettre en écart de ce qu'il voit pour mieux analyser ce qu'il est en train de regarder. Il se met en distance, voilà, il se met en distance avec l'œuvre vue pour mieux en retenir et mieux analyser le fond. Voilà, et rapidement, l'histoire du cercle de Craie Caucasien, ça s'inspire d'une pièce de théâtre chinoise et en même temps du jugement de Salomon. Donc ça va être l'histoire d'une mère qui va être jugée, de deux mères qui vont être jugées pour savoir qui est la mère légitime d'un nourrisson. Et puisqu'on est en 45 et que c'est Brecht, il adapte cette pièce dans un déjà dans le Caucase, et ça toute l'intrigue part d'un groupe d'habitants d'un kolkhoz. Alors on va commencer comme d'habitude, hein, donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'émission, il va y avoir une lecture de chronique donc, de ces deux œuvres, et puis en deuxième partie d'émission, trois extraits lus de chaque œuvre. Voilà, donc on va commencer par le punk. Allez, à tout de suite pour les chroniques.
Il y a eu des moments comme ça où les conjonctures ont fait que des génies se sont exprimés en même temps. Des conjonctures merdiques, en règle générale. Des moments aussi où des génies se trouvaient au même endroit, au même moment. Ils ont fait fissionner leurs génies respectifs par le truchement d'une émulation inespérée sans limite, et sans le savoir, ou en s'en doutant, et ils se sont mis à prodiguer leurs soins palliatifs à des âmes sensibles, mais sans génie. En l'occurrence, sous forme de bande-son. Ce sont les premiers mots du texte de Manon Labrie, auteur de Riot Girls, chronique d'une révolution punk féministe. Elles sont filles sauvages et féministes, musiciennes de la scène punk au début des années 90. Alors juste pour resituer le contexte, on est au tout début du grunge, Nirvana va s'envoler et très vite MTV et les labels vont tout récupérer. Alors ces jeunes américaines vont faire leur révolution dans la société puritaine post-Reagan, une société qui, j'ouvre les guillemets, est les femmes. Ces Riot Girls vont dans le mouvement punk très masculin aborder des thèmes douloureux alors impensables, j'ouvre les guillemets, les violences physiques et psychologiques qui menacent les femmes. Girl to the front, les filles devant, est l'un de leurs mots d'ordre. Il a bien sûr un double sens, devant la scène et puis... bien sûr, les filles comme sujet à part entière. La colère et la frustration engrangées deviennent machines de guerre, et les chansons de ces groupes, Bikini Kill, Bratmobile, décriront, j'ouvre les guillemets, ce monde patriarcal et capitaliste de merde. Mais elles ne sont pas que des musiciennes, car l'essentiel, c'est la multiplication des cellules. Faire des émules, susciter des vocations, soit l'esprit même du « do it yourself ». Manon Labrie raconte la jeunesse de ce mouvement, ses premières années, la redécouverte par exemple pour ces jeunes femmes féministes des réunions non mixtes. Elles parlent, très bien je trouve, de leur musique qu'on a envie d'aller tout de suite écouter. Elles décrivent les tensions, la principale de ces tensions étant celle de déplorer l'homogénéité et la blanchité du public. Et puis la deuxième de ces tensions, c'est la couverture médiatique qui trouve avec les Riot Girls un os à ronger. La réponse face à ces médias se fera par un blackout généralisé. Manon Labrie raconte tout cela, puis elle s'arrête. Car en fait, il n'y a aucun intérêt à raconter chronologiquement ce mouvement. Car Manon Labrie est elle aussi assurément une fille sauvage. Elle ne joue pas, elle n'a aucune nostalgie pour une époque qu'elle n'a pas connue, mais avec qui elle est en parfaite adhésion. Elle fait cœur, esprit, corps avec ce mouvement. Je la cite à nouveau, page 114 de ce livre. C'est à ce moment très précis que je vais commencer à devenir aussi elliptique que le non-cercle de notre organisation secrète. Je vais narrer quelques faits révélateurs, donner 2-3 détails éloquents, terminer l'histoire de nos premières cellules qui sont dans la forme qu'elles prenaient alors, foutues depuis belle lurette, et puis, pour le reste, il faudra chercher toute seule. Très probablement, pour cela je te donne quand même un indice, il faudra créer. Ni essai, ni document, ni roman, mais un peu tout cela à la fois, le livre de Manon Labrie est surtout, il faut le dire, un plaisir immense de lecture car elle raconte cette aventure avec un style, une invention et un humour que j'ai trouvé absolument jubilatoire. Ça s'appelle donc Riot Girls, c'est signé par Manon Labrie et publié aux éditions Zone. Eh bien, après le mouvement punk, voici le théâtre de Bertolt Brecht.
Au XIVe siècle, Li Kuan-fu écrit la pièce de théâtre Le Cercle de Cré. Une épouse fait accuser la concubine de son mari de l'avoir empoisonnée. Elle clame aussi que le bébé de la concubine est le sien, faisant de lui l'héritier du défunt mari. Le juge Bao décide de faire tracer un cercle de Cré et de placer l'enfant au centre. Celle des deux femmes qui réussira à tirer l'enfant à elle sera déclarée mère légitime. La concubine ne peut se résoudre à faire du mal à l'enfant, c'est donc elle la véritable mère, et l'épouse est arrêtée. Beaucoup plus près de chez nous, et bien avant Li Kuan-fu, le roi Salomon rendit un jugement équivalent. Deux femmes se disaient mères d'un nourrisson et portèrent l'affaire devant le roi. Il décida de trancher l'enfant en deux et de remettre à chaque femme une moitié. Une des femmes avoua préférer renoncer à l'enfant plutôt que de lui faire du mal. Le roi vit en elle la mère légitime et lui remit l'enfant. Dans ces deux histoires, la véritable mère est celle qui est biologiquement la mère de l'enfant, ce qui voudrait impliquer que l'amour maternel l'est tout autant. Bertolt Brecht s'inspire de ces deux textes pour écrire sa pièce « Le cercle de Cré caucasien » en 1945. Fini la Chine, au revoir Israël. Nous sommes dans le Caucase, avec à notre gauche la mer Noire, et à notre droite la mer Caspienne. Ici, des habitants d'un kolkhoz règlent des affaires de terre avec d'autres habitants. L'accord trouvé, on le célèbre avec une belle fête, et un chanteur parmi l'assemblée raconte une histoire. Elle se déroule en Géorgie, il y a très longtemps. Le gouverneur Abashvili, riche comme Crésus, est assassiné par des révolutionnaires. C'est la panique au palais. La femme du gouverneur fuit avec des robes et des bijoux, laissant l'enfant Michel, héritier du trône, en plan, en pâture aux révolutionnaires. Une des servantes, Groucha, fuit avec les autres domestiques, mais, dans sa fuite, emporte l'enfant, ne voulant pas le laisser mourir. Les deux femmes finiront par se retrouver, au tribunal, pour savoir laquelle est la véritable mère. Qui est la mère? Celle du sang? D'un lignage honorable, riche, pleine de pouvoir? Mais qui préfère les robes à son propre fils, ou celle qui l'a élevé, celle qui l'a nourri, habillé, qui lui a appris à se comporter dans la société. Dans cette pièce, sous la forme du théâtre épique, Bertolt Brecht raconte le combat de celle qui élève un enfant, mais qui n'est pas le sien. contre les mentalités qui lui refusent le droit sur l'enfant, contre les mentalités qui la forcent à épouser un homme qu'elle ne veut pas, contre les mentalités qui l'empêchent de choisir. Groucha lutte. Le cercle de craie caucasien, écrit par Bertolt Brecht, est publié à l'Arche dans la collection Scène ouverte, dans une traduction de Georges Prosé.
Vous êtes toujours dans l'émission Fahrenheit 451 sur Micro Rebelle et vous venez d'écouter à l'instant le groupe Massico avec le titre L'Autre.
Alors après cette pause musicale, nous passons à la deuxième partie de l'émission, les lectures d'extraits, et on commence par le livre Riot Girls de Manon Labrie. Et dans le premier extrait qu'Olivier va vous lire, Manon Labrie revient sur cette époque des fanzines et la nécessité pour les groupes punk féministes de développer leur propre fanzine. Donc on est à l'été 91. Et plusieurs filles de ces groupes punk féministes commencent à réfléchir à l'idée d'un ou plusieurs fanzines.
Allez, on a quoi ? Une douzaine de forces vives en présence ? Peut-être plus ? Mais l'histoire est encore obscure. Eh bien, cela va suffire à transformer la planète. Je n'exagère pas. Tu parles de force, cela dit. C'est le nucléaire de l'underground qui est en train de fissionner là. Toutes ces solitudes et ces frustrations qui ont duré si longtemps et qui pètent d'un coup à la vue de tous ces possibles ensemble, forcément. Reste à savoir que faire avec toutes ces envies et comment se mettre en contact avec d'autres filles. Parce que c'est sûr maintenant, on sait qu'il ne peut pas en être autrement, elles sont légion. Le plus dur, c'est de trouver les premières pour s'assurer que le personnel était politique. Elle le savait bien, mais des fois on doute au milieu de tous ses rêves. C'est bien d'être plusieurs, de se pincer et de se le redire. Apparemment, c'est Toby Vail qui suggère l'édition d'un mini-zine collectif qui serait hebdomadaire pendant tout l'été et qui servirait d'abord à diffuser les infos sur ce qui se passe entre Girls à Washington DC et qui aiderait ensuite à élargir le réseau des susdites Girls. Oui. Parce que rappelons que Mark Zuckerberg n'a que 7 ans et que pour l'instant il joue à Duck Hunt sur sa NES quasi flambant neuve et que de toute façon on n'a pas vraiment besoin de lui, merci bien. Je fais rapide sur le nom du magazine, parce que ce n'est pas très important finalement, même si c'était très bien pensé. Il s'appellera Riot Girls. Vous pouvez regarder l'histoire du nom sur Wikipédia. En un mot, merci Jane Smith pour Riot, et merci Toby Vail pour Girls. Merci aux émeutes raciales de Mount Pleasant cette année-là. Et tant que j'y suis, merci à mes parents et à mes amis. Comme elles ne sont pas du genre à procrastiner les Girls en question, le premier numéro de Riot Girl sort tout début juillet 1991. Il est distribué de ci, de là, aux soirées, aux concerts, dans le bus, dans la rue, ou laissé au hasard à la bibliothèque ou dans les WC des filles. Ça n'est peut-être pas vrai, mais c'est une sacrée stratégie, c'est sûr. Note pour plus tard. Et le zine annonce. Il y a eu une prolifération d'Angry Girls zine ces derniers mois, essentiellement à cause du sentiment incommodant que nous les filles, on sent dans nos estomacs quand on contemple le manque général de girl power dans la société de manière globale et dans l'underground punk rock spécifiquement. Durant ce long été caniculaire que nous vivons actuellement, une partie d'entre nous, les filles, a pensé qu'il était temps qu'on mette ensemble nos têtes collectivement en colère pour faire un mini-zine et le faire sortir aussi souvent que possible. On essaiera de tenir tout le monde au courant de tous les événements de filles qui rockent, qui vont avoir lieu à mesure que l'été avance, et peut-être qu'on mettra un coup de projecteur sur une ou deux filles spéciales qui rendent nos vies plus supportables. Et bien sûr, on apprécierait des suggestions et des commentaires.
Dans ce deuxième extrait, Manon Labrie revient sur l'histoire du premier enregistrement du groupe Bikini Kill.
La première bande originale de la Révolution commence à circuler dans le Pacifique Northwest, une petite cassette rouge avec un cœur noir dessus, bandée de « Revolution, Girls Still Now », la première démo autoproduite de Bikini Kill qui s'échange et se reduplique à vitesse grand V. 8 titres enregistrés par-dessus des bandes ratées de Nirvana, sur des cassettes offertes à Bikini Kill par le supergroupe, invendables à la suite d'une erreur de sa maison de disques qui avait mis les mêmes chansons sur chacune des deux faces. Symboliquement, on ne pouvait pas faire mieux. Et oui, n'oublions pas qu'en 1991, c'est l'année où tout va imploser et où, en matière de musique alternative, il faudra choisir son camp. Recycler des cassettes, s'enregistrer soi-même et crever la dalle, mais ne pas beaucoup transiger avec ses idéaux, ou bien opter pour une version plus lucrative de la chose, pour une production dont l'importance fait presque jeu égal avec la composition, mais aussi pour le jeu, dangereux pour les âmes sensibles, qui va avec tout le tralala. La radicalité de la démo de Bikini Kill, en tout cas, ça n'est pas de la science-fiction. Et c'est certain, c'est en connaissance de cause et avec une force et une conviction que le groupe prend le contre-pied de ses amis de Nirvana. Ne serait-ce que pour une raison. Le but et l'un des moyens de la révolution, c'est d'inspirer et d'inciter, pas d'être idolâtré. Le titre de la démo est une injonction, pas un truc marketing à la con. Pas de fioritures dans le son, mais alors zéro. Et c'est un choix politique. Mais quelle puissance! Pas besoin non plus d'y aller comme des brutes dès le départ. On pénètre doucement dans le marasme avec Candy, dont les trois premiers accords agrémentés de bons gros coups de grosse caisse ne laissent pas une once d'espoir. Ah ça, pour décrire en musique un monde patriarcal et capitaliste de merde, ils savent comment faire. L'intro sépulcrale fait perler de sueur froide les échines des white boys à coup sûr encore à ce jour. Parce que dès que la voix arrive, on sent bien qu'il n'y a pas d'espoir. Les désespérés vont y aller le couteau entre les dents. Dans la bouche d'Anna, si t'as pas été réglo, les consonnes te trouent direct la peau et les voyelles te mettent un peu de sel sur la plaie. Dans le cas contraire, les premières te secouent la colère saine et la détermination, tandis que les secondes t'enrobent dans une connivence lénifiante. C'est le genre de musique, dans ce dernier cas, que quand tu descends dans la rue après l'avoir écouté, tu fais 10 cm de plus parce que tu te tiens bien droite devant l'adversité du bus qui vient de te passer devant la gueule. Tu sais que tu as touché les mystères de Dieu de près et c'est encore mieux parce qu'a priori, ton voisin du 7e, lui, ne sait rien. Tu sais que ta guinitude est une bénédiction. Tu sais que ton petit Bermuda te va comme un gant de boxe et t'as pas peur de la tache de règle. Ça dure pas longtemps, mais c'est déjà ça de prix. C'est marrant, dans la démo, les trois premières chansons sont un constat. A hell of constat. Désespérément. Je crois que j'ai lu quelque part que Taurine Tucker, la discrète future star, avait pleuré, ou bien avait été bouleversée, je sais plus, la première fois qu'elle avait entendu Feels Blind. Je veux bien le croire. Parole de la chanson. J'ouvre les guillemets. Toutes les tourterelles qui passent devant mes yeux ont les ailes engluées. Dans l'embrasure de la porte de ta disparition, je me tiens, emplâtré dans le murmure que tu m'as enseigné. Comment ça fait ? C'est comme si j'étais aveugle. C'est comme si j'étais une foutue aveugle. Regarde ce que tu m'as appris. Ton monde ne m'a rien appris. Comme si t'étais aveugle et qu'il n'y avait pas le braille. Il n'y a pas de limite à ce que je ressens. Comme si tu pouvais voir, mais qu'on t'avait toujours enseigné que ce que tu voyais n'était pas vrai. Comment ça fait ? C'est comme si j'étais aveugle. C'est comme si j'étais une foutue aveugle. Regarde ce que tu m'as appris. Ta saloperie de monde ne m'a rien appris. En tant que femme, on m'a appris à avoir toujours faim. Les femmes connaissent si bien la soif. Ouais, on pourrait avaler n'importe quoi. On pourrait même bouffer ta haine comme si c'était de l'amour. Je boufferai ta haine comme de l'amour. Je boufferai ta haine comme de l'amour. Je ferme les guillemets. On ajoute à ça la basse qui déroule le début de la chanson comme un échange de texto entre Atride et la batterie qui entre comme si de rien n'était en un petit roulis d'exécution capitale. Et on dirait que tout ce monde pourri, dont on sait même pas s'il est vrai, il est vraiment foutu. Et finalement, pourquoi pas, ça soulagerait beaucoup de monde. Oui, mais voilà, on veut aller au carnaval, au moins pour finir. Les cinq chansons suivantes de la démo, ce n'est pas du constat, c'est tout sauf du désespoir. C'est les poils qui se dressent jusqu'à tes non-rouflaquettes, c'est les quatre membres de Bikini Kill qui décollent en même temps, de la plèvre aux synapses, et avec eux toutes les créations de situations que le vrai faux pire monde contient pour le meilleur. Cette démo, par définition, ce sont vraiment les prémices. Le groupe se cherche encore. L'influence du grunge se fait sentir presque autant que celle du hardcore. Les rythmes sont aussi plus lents que par la suite, par la force des choses, puisque deux des membres du groupe, Anna et Wilcox, qui alternent à la basse, n'ont jamais touché de basse de leur vie. Mais ces cinq chansons préfigurent peut-être davantage que Candy ou Feels Blind ce que le groupe sera en évoluant. Un ovni d'énergie et de colère légitime, un catalyseur de hardiesse et de force qui administre à tire-larigot des gros shoots d'espoir à qui prête l'oreille et la volonté d'agir.
Dans ce troisième extrait, vous allez écouter le manifeste écrit par Bikini Kill pour les Riot Girls.
Riot Girls, c'est parce que nous, les filles, avons terriblement besoin de livres et de fanzines et de disques qui nous parlent, dans lesquels nous nous sentons incluses et que nous pouvons comprendre dans nos propres termes. Parce que nous voulons faire que ce soit plus facile pour les filles de voir, écouter nos travaux manuels, pour partager des stratégies et se critiquer ou s'applaudir. Parce que nous devons nous approprier les moyens de production pour créer nos propres significations. Parce que considérer notre travail en tant que connecté à nos amis politiques vraie vie est essentiel. Si on veut comprendre comment on impacte, reflète, perpétue ou perturbe le statu quo. Parce que nous jugeons que la fantasmagorie de la révolution instantanée macho avec des flingues n'est qu'un mensonge irréalisable, destiné à nous laisser rêver plutôt qu'à devenir notre rêve. Et que donc, nous cherchons la révolution dans nos propres vies, chaque jour, en imaginant et en créant des alternatives à la manière chrétienne, merdique et capitaliste de faire les choses. Parce que nous voulons et avons besoin d'encourager et d'être encouragés face à toutes nos insécurités, face aux rockeurs garçons bedonnants de bière qui nous dit qu'on ne sait pas jouer de nos instruments, face aux autorités qui disent que nos groupes, zines, etc. sont les pires des États-Unis et qui attribuent toute validation, succès de notre travail à une hype de filles qui prennent le train en marche. parce qu'on ne veut pas s'assimiler aux standards d'autres garçons qui établissent ce qui est ou n'est pas de la bonne musique, ou punk rock, ou de la bonne littérature, et que donc on doit créer des forums où on peut recréer, détruire et définir nos propres visions. Parce qu'on ne veut pas fléchir sous les accusations selon lesquelles on est des sexistes inversés, réactionnaires, et non pas les vraies âmes punk rock militantes que nous savons que nous sommes pour de vrai. Parce que nous savons que la vie, c'est bien plus que la survie physique, et avons pleinement conscience que l'idée punk de « tu peux tout faire » est cruciale pour la révolution rock des filles en colère qui se prépare et qui tend à sauver des vies psychologiques et culturelles de filles et de femmes partout, selon leurs propres termes, pas les nôtres. Parce que ce qui nous intéresse, c'est créer des manières non hiérarchiques d'être, et de faire de la musique, et de se faire des amis, et développer des scènes sur la base de la communication, plus la compréhension, plutôt que la compétition, plus les catégorisations bon, mauvais. Parce que faire, lire, voir, écouter des choses cool, qui nous incluent ou qui nous remuent, peut nous aider à gagner la force et l'esprit de communauté dont nous avons besoin, pour comprendre comment des conneries comme le racisme, le validalisme, l'agisme, le spécisme, le classisme, le sexisme, l'antisémitisme et l'hétérosexisme affectent nos propres vies. Parce que nous considérons comme partie intégrante de ce processus le fait de favoriser et d'encourager les scènes de filles et les artistes filles de toutes sortes. Parce que nous haïssons le capitalisme sous toutes ses formes et que notre but principal c'est de partager des informations et de rester en vie, au lieu de tirer du profit du fait d'être cool selon les standards traditionnels. Parce qu'on est en colère contre une société qui nous dit « fille égale stupide, fille égale mauvaise, fille égale faible ». Parce qu'on refuse de laisser notre colère réelle et légitime se faire diluer ou se retourner contre nous via l'internalisation du sexisme, tel qu'on peut le voir dans les jalousies entre filles et les comportements typiques d'auto-sabotage. Parce que les comportements autodestructeurs, comme baiser des mecs sans capote, boire à l'excès, ignorer des amis de cœur aux belles âmes, se déprécier et déprécier d'autres filles, ne serait pas si facile si on vivait dans des communautés où on se sentait aimé, voulu, valorisé. Parce que je crois de tout mon cœur, esprit, corps, que les filles constituent une force spirituelle révolutionnaire qui peut et qui va changer le monde pour de vrai. We'll be right back.
êtes toujours dans Fahrenheit 451. Vous écoutez le morceau Internet du groupe Massico sur leur album Morse. Et nous allons reprendre les lectures d'extraits dans quelques instants.
Extrait donc du texte de Bertolt Brecht, Le cercle de craie caucasien. Dans ce premier extrait, donc, que va vous lire Michel, c'est la panique au palais du gouverneur qui vient d'être attaqué. La femme du gouverneur, qui s'appelle Natella Abashvili, se prépare à se sauver, avec à ses côtés une gouvernante et des domestiques, dont la servante Groucha.
La femme du gouverneur. Marot, apporte l'enfant. À la deuxième femme de chambre. Cherche, Macha. Non, porte d'abord les vêtements à la voiture. C'est complètement absurde, il est hors de question que je parte à cheval. Elle se retourne et voit la rougeur de l'incendie et reste interdite. Ça brûle. Elle s'éloigne précipitamment avec l'aide de camp derrière elle. La deuxième femme de chambre la suit, hochant la tête avec le paquet de vêtements. Par la grande porte arrivent les domestiques. La cuisinière. C'est sûrement la porte de l'Est qui brûle. Le cuisinier. Ils sont partis. Et sans la voiture de provision ? Et nous maintenant, comment on fait pour partir ? Un valet d'écurie. Oui, elle est malsaine pour quelque temps cette maison. À la troisième femme de chambre. Soulika, je vais chercher quelques couvertures, nous filons. La gouvernante, sortant par la grande porte avec les bottines. Madame ? La grosse femme. Elle est déjà partie, la gouvernante. Et l'enfant ? Elle court vers l'enfant, le soulève. Ils l'ont laissé là, ces sauvages. Elle le tend à Groucha. Tiens-le-moi une minute, m'entends. Je m'occupe de la voiture. Elle part en courant à la suite de la femme du gouverneur. Groucha. Et qu'est-ce qu'on a fait de monsieur ? Le valet d'écurie, faisant le geste de couper la gorge. Quick ! La grosse femme, voyant le geste, pique une crise. Mon Dieu. Notre maître Georgi Abashvili. Comme le lys et la rose à l'heure de la messe. Et maintenant, emmenez-moi. Nous sommes tous perdus. Nous allons mourir dans le péché, comme notre maître Georgi Abashvili, la troisième femme de chambre, la raisonnant. Calmez-vous, Nina, on va vous emmener, vous n'avez rien fait de mal. La grosse femme, tandis qu'on l'emmène. Mon Dieu, vite, emmenez tout, avant qu'ils arrivent. La troisième femme de chambre, Nina, prends ça avec plus de cœur que madame. Même pleurer, il faut qu'il le fasse faire par les autres. Elle découvre l'enfant que Groucha porte toujours. « Eh bien, l'enfant, qu'est-ce que tu fais avec ?» Groucha. « Ben, il est resté là. » La troisième femme de chambre. « Elle l'a laissé. » Michel, qui craignait tant le plus petit des courants d'air. Les domestiques s'assemblent autour de l'enfant. Groucha. Il se réveille. Le valet d'écurie. « Toi, vaut mieux que tu le poses là. J'aime mieux pas penser à ce qui arriverait à celle qu'on trouverait avec l'enfant. Je vais chercher nos affaires. Vous attendez. » Il rentre dans le palais. La cuisinière. Il a raison. Quand ceux-là s'y mettent, ils se massacrent par famille entière. Je vais chercher mon fourbi. Tous sont partis, il ne reste que deux femmes et Groucha qui portent l'enfant sur le bras. La troisième femme de chambre. Tu as pas entendu ? On t'a dit de le poser. Groucha. La gouvernante me l'a donné à tenir une minute. La cuisinière. Elle reviendra pas, espèce de sotte. La troisième femme de chambre. Ne t'en mêle surtout pas. La cuisinière. Ils seront bien plus à ses trousses qu'aux trousses de la femme. Il est l'héritier. Groucha. Tu es une brave cœur, mais tu sais, tu n'es pas une lumière. Je te le dis, s'il avait la lèpre, ça pourrait pas être pire. Va plutôt t'en sortir, toi. Le valet des curés est revenu avec des paquets et il les répartit entre les femmes. Tous, sauf Groucha, se disposent à partir. Groucha, entêté. Il a pas la lèpre. Il vous regarde comme un être humain. La cuisinière. Alors toi, ne le regarde pas. Tu es bien l'idiote à qui on peut tout mettre sur le dos. Quand on te dit « cours chercher la salade, c'est toi qui as les plus grandes jambes », alors tu cours. Nous prenons le char à bœuf. Si tu te dépêches, tu pourras y monter avec nous. Jésus, à présent, c'est sûrement tout le quartier qui brûle. La troisième femme de chambre. Tu n'as rien emballé ? Dis, on n'a plus beaucoup de temps avant que les hommes d'armes arrivent de la caserne. Les deux femmes et le valet d'écurie s'en vont. Groucha, je viens. Elle pose l'enfant à terre, le regarde quelques instants, cherche des vêtements dans les coffres qui traînent un peu partout et en recouvre l'enfant qui dort toujours. Puis elle rentre en courant dans le palais pour y chercher ses propres affaires. On entend des piétinements de chevaux et des cris de femmes. Le prince obèse entre avec des hommes d'armes, ivres. L'un d'eux porte au bout d'une pique la tête du gouverneur. Le prince obèse. « Ici, au milieu !» Un des soldats grimpe sur le dos d'un autre, prend la tête et pour voir, la tient au-dessus de la grande porte. « Ce n'est pas le milieu, c'est plus à droite. Voilà. » Ce que je fais faire, mes amis, je le fais faire proprement. Tandis que le soldat, avec un clou et un marteau, fixe la tête par les cheveux, ce matin, à la porte de l'église, je disais à Georgie Abashvili « J'aime les ciels sans nuages. » Mais en fait, ce que je préfère, c'est l'éclair qui tombe du ciel sans nuages. Eh oui. Dommage seulement qu'ils aient emporté le marmot. Il me le faut absolument. Cherchez-le dans toute la Géorgie. 1000 piastres.
Deuxième extrait du cercle de craie caucasien. Groucha et l'enfant Michel s'est réfugié dans un village auprès de son frère Laurenti. Celui-ci a arrangé le mariage de sa sœur avec un mourant.
Le moine. Acceptes-tu d'être pour ton époux une bonne épouse, fidèle et obéissante, et de lui rester attaché jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Groucha, jetant un regard sur l'enfant. Oui. Le moine au mourant. Et toi, acceptes-tu d'être pour ton épouse un bon époux et de veiller sur elle jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Comme le mourant ne répond pas, le moine répète sa question, puis jette un regard autour de lui. La belle-mère. Bien sûr qu'il accepte. Tu n'as pas entendu le « oui » ? Le moine. Parfait, nous allons déclarer le mariage conclu. Mais que diriez-vous d'une extrême onction ? La belle-mère. Rien à faire, le mariage a été assez cher. Maintenant, il faut que je m'occupe des invités de l'enterrement. À Laurenti. Nous avions dit 700 piastres. Laurenti. 600. Il paie. Et je ne vais pas m'asseoir avec les invités et risquer de faire des connaissances. Alors, adieu, Groucha. Et si ma sœur, une fois veuve, vient par hasard me rendre visite, elle entendra ma femme lui souhaiter la bienvenue. Sans ça, je deviendrai mauvais. Il s'en va. Alors qu'il passe, les invités de l'enterrement le suivent du regard avec indifférence. Le moine. Et peut-on demander qu'est-ce que c'est que cet enfant ? La mère. Un enfant ? Où ça ? Je ne vois pas d'enfant. Et toi, tu n'en vois pas non plus. Compris ? Sans ça, moi, j'ai peut-être vu pas mal de choses derrière le cabaret. Maintenant, venez. Il passe de l'autre côté de la pièce, après que Groucha a assis l'enfant sur le sol et lui a fait signe de rester tranquille. Elle est présentée au voisin. La belle-mère. « Voici ma belle-fille, elle est arrivée à temps pour trouver une envie, ce cher Youssoup. » Une des femmes. « Il est couché depuis un an maintenant, c'est bien ça. Quand ils ont enrôlé mon Vasili, il était encore là aux adieux. » Une autre femme. « Le maïs sur pied et le fermier au lit, c'est terrible pour une ferme. C'est une délivrance pour lui, s'il n'a plus longtemps à souffrir. Voilà ce que je dis. » La première femme, en confidence. Et nous qui pensions au début qu'il était couché à cause du service dans l'armée, vous comprenez? Et maintenant, pour lui, c'est la fin. La belle-mère. Je vous en prie, asseyez-vous et mangez quelques gâteaux. La belle-mère fait signe à Groucha. Les deux femmes vont dans la chambre à coucher où elles prennent par terre des plaques de four chargées de gâteaux. Les invités, dont le moine, s'assoient par terre et entament une conversation en sourdine. Un paysan à qui le moine a tendu une bouteille tirée de sa soutane. Il y a un mioche, vous dites ? Où est-ce que ça a bien pu arriver à Youssoup ? Une troisième femme. En tout cas, elle a eu de la chance d'avoir encore pu se marier, alors qu'il est en si mauvaise posture. La belle-mère. Les voilà déjà en train de bavarder, et avec ça, ils dévorent des gâteaux de l'enterrement. Et s'ils ne meurent pas aujourd'hui, demain, je pourrais en refaire d'autres. Groucha. Moi, je les ferai. La belle-mère. Quand hier soir, les cavaliers sont passés et que j'étais sorti voir qui c'était, quand je rentre, il était là, étendu, comme un mort. C'est pour ça que je vous ai envoyé chercher. Ça peut plus durer très longtemps. Elle tend l'oreille. Le moine. Chers invités de la noce et de l'enterrement, plein d'émotions nous entourons, un lit funèbre et conjugal, car l'épouse prend place sous la fleur d'oranger et l'époux dans la fosse. Le mari a déjà sa toilette faite et la mariée est déjà en forme. Car dans le lit conjugal est allongé un testament, et ce testament rend sensuel, comme sont diverses, mes très chers frères, les destinées des humains. Et hélas, l'un meurt pour avoir un toit sur la tête, et l'autre se marie, afin que la chair retourne à la poussière dont elle est faite. Amen. La belle-mère, qui a tendu l'oreille. Il se venge. Je n'aurais pas dû en prendre un si bon marché. Il vaut son prix. Un qui est cher, il sait se tenir. À Soura, il y en a même un qui est en odeur de sainteté. Mais naturellement, il demande une fortune. Un prêtre à 50 piastres, comme ça n'a aucune dignité et de la dévotion, eh bien, il y en a pour 50 piastres, c'est tout. Quand je suis allé le chercher au cabaret, il était juste en train de tenir un discours et de crier « La guerre est finie! Craignez la paix !» Groucha donne un gâteau à Michel. « Mange le gâteau et sois bien sage, Michel. » Maintenant, nous sommes des gens respectables. Elles sortent porter les plaques chargées des gâteaux aux invités. Le mourant, derrière la moustiquaire, s'est redressé et sort la tête, suivant les deux femmes du regard. Puis il retombe en arrière. Le moine a tiré deux bouteilles de sa soutane et les a passées au paysan assis près de lui. Trois musiciens sont entrés, auxquels le moine, ricanant, fait un signe de la main. La belle-mère au musicien. Qu'est-ce que vous faites ici, avec vos instruments ? Un musicien. Le frère Anastase, ici, il désigne le moine, nous a dit qu'il y avait une noce. La belle-mère. Quoi ? Tu m'en mets encore trois sur le dos ? Savez-vous qu'un mourant est couché là-dedans ? Le moine. C'est une tâche séduisante pour un artiste. Ça pourrait être un rigodon en mineur ou une valse funèbre à tout casser. La belle-mère. Jouez au moins, mangez, de toute façon, on ne vous en empêchera pas. Les musiciens jouent un pot pourri, les femmes font circuler les gâteaux. Le moine. La trompette résonne comme des piaillements d'enfants. Et qu'est-ce que tu tambourines aux quatre vents, tambourin ? Le paysan près du moine. Qu'est-ce que vous en diriez si la mariée agitait la jambe ? Le moine. La jambe ou le fémur ? Le paysan près du moine chante. Mamselle Rondemiche a pris un vieil époux. Se marier, qu'elle dit, compte avant tout. Et quand elle veut se distraire, l'étui du contrat fait l'affaire, les cierges c'est beaucoup plus doux. La belle-mère jette l'ivrogne dehors, la musique s'arrête, net. Les invités sont gênés, silence.
Azdak, le juge, tient audience. Qui est la mère de l'enfant Michel? Deux avocats représentent la femme du gouverneur, Natella Abajvili, qui prend la parole.
La femme du gouverneur, d'une voix faible. Un destin des plus cruels m'oblige, monsieur, à solliciter de vous la restitution de mon enfant chéri. Ce n'est pas à moi de vous décrire les souffrances morales d'une mère à qui l'on a ravi son enfant, ses angoisses, ses nuits sans sommeil, ses... Le deuxième avocat éclate. C'est inouï comment on traite cette femme. On lui interdit l'entrée du palais de son époux. On lui bloque les revenus des biens. On lui dit froidement qu'ils sont attachés à la personne de l'héritier. Elle ne peut rien entreprendre sans l'enfant. Elle ne peut pas payer ses avocats. Au premier avocat, qui, désespéré de cet éclat, lui fait signe frénétiquement de se taire. Chers collègues, pourquoi ne pas dire qu'il s'agit, en fin de compte, des biens de la succession à Abajvili? Le premier avocat. Je vous en prie, ami, nous étions convenus. À Asdak. Évidemment, il est exact que l'issue du procès va également décider si notre estimée cliente pourra disposer des biens de la très importante succession à Abajvili. Mais c'est avec intention que je dis « également ». C'est-à-dire qu'au premier plan se situe la tragédie humaine d'une mère, comme le mentionnait à bon droit Natella Abajvili au début de son bouleversant exposé. Même si Michel Abajvili n'était pas l'héritier de ses biens, il resterait encore pour ma cliente l'enfant ardemment chéri. Asdak, arrêtez. La cour est sensible à l'évocation des biens de la succession comme à une preuve d'humanité. Le deuxième avocat. Merci, votre grâce. Chers collègues, nous pouvons en tout cas prouver que la personne qui s'est emparée de l'enfant n'est pas la mère de l'enfant. Permettez-moi d'exposer à la cour les faits tout nus. Lors de la fuite de la mère, l'enfant, Michel Abajvili, par un malheureux enchaînement de circonstances, est resté en arrière. La nommée Groucha, fille de cuisine au palais, était présente en ce dimanche de Pâques et fut observée en train de tourner autour de l'enfant. La cuisinière. La dame pensait simplement aux robes qu'elle emporterait. Le deuxième avocat, sans se troubler. Un an plus tard, environ, la nommée Groucha fit son apparition dans un village de la montagne, avec un enfant, et contracta mariage avec Asdak. Comment es-tu arrivé dans ce village de la montagne? Groucha. À pied, votre grâce, et c'était le mien. Simon. Je suis le père, votre grâce. La cuisinière. Il était en pension chez moi, votre grâce, pour 5 piastres. Le deuxième avocat. Cet homme est le fiancé de la nommée Groucha, honorable cour de justice, et par conséquent n'est pas digne de confiance dans ses déclarations. Asdak. Es-tu celui qu'elle a épousé dans le village de la montagne? Simon. Non, votre grâce, elle a épousé un paysan. Asdak fait signe à Groucha d'approcher. Pourquoi? Montrant Simon. Il ne vaut rien, Toli? Dis la vérité. Groucha. Nous ne sommes pas allés jusque-là. Je me suis marié à cause de l'enfant, pour qu'il ait un toit sur la tête. Il était à la guerre, lui, votre grâce. Asdak. Et maintenant, il veut se remettre avec toi, hein? Simon. Je voudrais faire inscrire au procès-verbal Groucha avec colère. Je ne suis pas libre, votre grâce. Asdak. Et l'enfant, tu affirmes qu'il est le fruit de la putasserie? Je te pose une question. Quel genre d'enfant est-ce? Quelque bâtard locteux ramassé dans la rue? Ou un enfant comme il faut, issu d'une famille fortunée? Groucha, méchante, c'est un enfant comme les autres. Asdak. Je veux dire, a-t-il précocement présenté des traits raffinés? Groucha. Il a présenté un nez au milieu de la figure. Asdak. Il a présenté un nez au milieu de la figure. Je considère ça comme une réponse importante de ta part. À présent, je vais couper court et ne plus écouter davantage vos mensonges, surtout les tiens. Je peux m'imaginer tout ce que vous avez concocté pour me rouler. Je vous connais, vous êtes des escrocs. Groucha, brusquement. Ça, je vous crois, que vous vouliez couper court maintenant que j'ai vu combien vous preniez. Asdak, ferme-la. Toi, je t'ai pris quelque chose peut-être? Groucha, parce que je n'ai rien. Asdak, très juste. Vous, les crèves la faim, je ne reçois rien. Je pourrais crever la faim tout de suite. Vous voulez une justice? Mais vous voulez payer. Quand vous allez chez le boucher, vous savez qu'il vous faudra payer. Mais chez le juge, vous y allez comme à un repas d'enterrement. Simon, d'une voix forte. On dit, quand ils sont venus ferrer le cheval, le bousier a tendu la patte. Asdak, relevant aussitôt le défi. Mieux vaut un trésor trouvé dans la fosse à Purin qu'un caillou trouvé dans la source. Simon, une belle journée si on allait à la pêche, dit le pêcheur à l'asticot. Asdak, Je suis mon propre maître, disait le valet, et il se trancha le pied. Simon. Je vous aime comme un père, dit le tsar au paysan, mais il fit couper la tête au tsarevitch. Asdak. Le pire ennemi du fou, c'est lui-même. Simon. Mais le paix n'a pas donné. Asdak. 10 piastres d'amende, pour un langage inconvenant devant le tribunal, afin que tu apprennes ce qu'est la justice. Groucha. C'est une gelée justice. Nous, tu nous sabres parce que nous ne savons pas parler aussi bien que celle-là avec ses avocats. Asdak. C'est comme ça. Vous êtes trop bête. Ce n'est que justice quand on vous cogne sur le couvercle. Groucha. Parce que c'est à celle-là que tu veux refiler l'enfant, alors qu'elle est beaucoup trop distinguée pour ne jamais avoir su comment le langer. Tu ne sais pas plus que moi sur la justice. Retiens ça. Asdak. Il y a du vrai là-dedans. Je suis un ignorant. Je n'ai que des pantalons en loques sous ma robe de juge. Regarde-toi-même. Avec moi, tout passe en nourriture et en boisson. J'ai été élevé chez les moines. D'ailleurs, toi aussi, je te mets à l'amende. De 10 piastres, pour outrage à la cour. Et de plus, il faut que tu sois bien sotte. Pour me braquer contre toi, au lieu de me faire les yeux doux et de tortiller un peu du derrière, pour que je sois bien disposé. 20 piastres. Groucha. Et quand ce serait 30, je vais te dire ce que je pense de ta justice, espèce d'éponge à vin. Comment tu peux te permettre de me parler comme le Isaïe fêlé sur le vitrail de l'église, comme un monsieur, lorsqu'ils t'ont sorti de ta mère? Ce n'était pas prévu que tu lui tapes sur les doigts quand elle se prend où elle peut une écuelle de mille. Et tu n'as pas honte quand tu vois ce que je peux trembler devant toi? Mais tu les as fait faire de toi leur valet pour qu'on ne les emporte pas par les maisons parce qu'ils les ont volés. Depuis quand les maisons appartiennent-elles aux punaises? Mais toi, tu as l'œil. Sans ça, ils ne pourraient pas entraîner nos hommes dans leur guerre, vendu que tu es. Asdak s'est levé, il devient rayonnant. Avec son petit manteau, il frappe mollement sur la table, comme pour rétablir le silence, mais les injures de Groucha continuant, il se borne à lui battre la mesure. Je n'ai aucun respect pour toi, pas plus que pour un voleur ou un criminel avec un couteau. Il fait ce qu'il veut. Tu peux m'enlever l'enfant, et c'est 100 chances contre 1. Mais moi, je te dis une chose, pour un métier comme le tien, on ne devrait choisir que des souilleurs d'enfants et des usuriers, comme punition, pour qu'ils soient obligés de siéger au-dessus de leurs semblables, ce qui est pire que de pendre à la potence.
Voilà, c'est la fin de ce 3e numéro de Fahrenheit 451. Je vous rappelle les 2 livres dont nous vous avons parlé, Michel et moi, ce soir. Donc, il y avait Le Cercle de Craie caucasien, donc une pièce de Bertolt Brecht, qui était traduite de l'allemand par Georges Proser, et qui est donc publiée aux éditions de l'Arche. Et puis, Riot Girls, sous-titré Chronique d'une révolution punk féministe, donc un essai, document de Manon Labrie, qui est publié aux éditions Zone.
Mais merci Olivier pour ce petit rappel des titres. Alors on continue dans les petits rappels. Alors la musique que vous avez écoutée pendant ce 3e numéro de Fahrenheit 451, c'est le groupe Massico avec des titres tirés de leur album Morse. Alors les titres en question qui ont été diffusés en entier, c'est L'autre et Internet. La courte introduction en tout début d'émission, c'est l'introduction du morceau Genuine, et on va se quitter avec un morceau qui s'appelle Tarte. Et voilà. Alors, je vous rappelle, chères auditrices, auditeurs, que vous pouvez écouter les anciens numéros de Fahrenheit 451 sur le site de Microrebelle, donc microrebelle.fr. Et vous pouvez aussi du coup en profiter pour les écouter soit en streaming, soit en podcast. Et vous pouvez aussi découvrir un peu ce que fait notre chère web radio indépendante avec ses autres émissions. Voilà, bah Olivier et moi on vous dit au revoir et puis au mois prochain pour une prochaine émission.
À bientôt, salut à tous, salut Michel.
Ouais, bye bye.